chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente. Chute, on écoute la télé. Avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord, 116 cours Paul Doumer à Sainte. C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 13h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Attitude.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Au sommaire de ce tout nouveau rendez-vous de Chute en écoute la télé, dans un tout petit instant, nous allons recevoir Julien Boissier-Descombes. Il vient de reprendre la BD Comédie d'Angoulême qui vient de renaître avec des rendez-vous, des surprises, du théâtre et surtout du one-man show avec le Mécontent, un festival du 1er au 31 mai. On en parle avec lui dans un tout petit instant au cœur de la Charente. Et puis nous vous emmènerons en fin d'émission dans la Haute-Vienne, puisque en Haute-Vienne le 30 juin prochain, il y aura un concert au profit de l'association Grégory Lemarchal avec Pierre Lemarchal à Saint-Brice-sur-Vienne. Et bien justement, Pierre Lemarchal sera notre invité. Et puisqu'on est justement à l'anniversaire de la disparition de Grégory Lemarchal qui nous a quitté il y a 12 ans, nous lui rendrons hommage en fin d'émission. Et puis tout à l'heure, dans nos coups de cœur télé, nous recevrons Dylan Lapassade. Et oui, c'est un des candidats de Together, tous avec moi. Ça démarre demain sur M6 avec le truculent Éric Antoine, évidemment, et Garou en chef d'équipe avec les 100 jurys de professionnels qui vont composer le mur de célébrités qui vont être jury donc dans ce tout nouveau concours de chant. Jean-Charles Chagache-Bagnan également sera notre invité. Il nous parlera des futures intrigues de Plus belle la vie, de son tournage à La Rochefoucauld en Charente et bien d'autres surprises qui nous attendent encore. Alors on vous souhaite évidemment une très très belle émission. C'est parti comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, tout de suite, rapidement, un petit tour vers les audiences de la semaine dernière. Et lundi dernier, il y avait Esprit Criminel sur TF1. Eh bien, c'est un score correct, hein. 4 231 000 téléspectateurs pour 19,3% de part de marché. Les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2 s'en sortent bien malgré que c'est une rediffusion avec 2 340 000 et 11% du public. Un petit score pour Le Monde de Jamy sur France 3, 1 900 et 89 000 téléspectateurs. Et mardi, c'est le capitaine Marlowe qui écrase littéralement la concurrence comme d'habitude sur France 3 avec 21,9% de part de marché et quasiment 5 millions de fidèles. La série est au top avec en plus un épisode en rediffusion, hein, c'est encore mieux. L'arme fatale sur TF1, 3 378 000 téléspectateurs, 14,3% de part de marché. M6 diffusait The Avenger à la veille de la sortie du nouveau volet. Eh bien c'est 2 314 000 fidèles et 12% de part de marché. C'est un petit score par contre pour Cache Investigation sur France 2, 10% de part de marché, 2 052 000 téléspectateurs seulement. Mercredi, tout le monde est dans un mouchoir de poche entre Grey's Anatomy, Rouge Sang, Top Chef et la carte au trésor entre 2 et 3 millions 5. Et puis jeudi, eh bien évidemment, c'est deux nouveaux épisodes de Section de Recherche eh bien, qui sont largement en tête des audiences. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer puisqu'en plus, ces deux derniers épisodes seront diffusés jeudi sur TF1.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va parler maintenant festival dans Chute, on écoute la télé. C'est une véritable renaissance pour la comédie d'Angoulême en Charente qui s'apprête eh bien, à vivre un festival durant tout le mois de mai, le Mécontent. Et justement, son nouveau propriétaire, Julien Boissier-Descombes, est avec nous en ligne. Bonjour Julien.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir.
Eh ben, c'est avec un grand plaisir. Alors ça y est, la comédie d'Angoulême renaît de ses cendres et c'est surtout c'est pour le meilleur, hein.
Oui, alors c'est plus la comédie d'Angoulême, hein. Il faut surtout bien insister là-dessus, ça s'appelle la BD Comédie. Voilà, c'est anciennement la comédie d'Angoulême, mais maintenant ça s'appelle la BD Comédie.
Alors c'est un beau clin d'œil au festival de bande dessinée quand même, ça.
Oui, et puis bah c'est mon nom, hein. Je m'appelle Boissier-Descombes, ça fait la bien drôle comédie, voilà, il y avait tout pour, étant originaire d'Angoulême, il y avait tout pour avoir ce nom comme faire valoir pour notre nouveau lieu, à moi et mon épouse.
Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans ce lieu et de reprendre ce lieu pour le mettre à ta sauce en quelque sorte, Julien ?
Ben, ça fait déjà 20 ans que je vis du métier de comédien, que j'ai beaucoup travaillé pour beaucoup de théâtres privés. Et puis j'ai eu ma structure associative avec laquelle je produisais des spectacles. Et puis l'opportunité s'est présentée de pouvoir proposer. Moi j'ai toujours eu vouloir un lieu. voulu avoir un lieu avec mon épouse, c'était un projet de vie. Donc, quand j'ai su que... Moi, j'ai joué un petit peu à la Comédie d'Angoulême les deux années qui viennent de passer. Donc, quand j'ai su que ça risquait à un moment donné de s'arrêter, moi, j'ai fait une proposition aux frères Vardar en leur disant que ça pouvait m'intéresser. Et voilà. Et puis, on a réussi à aller au bout de tout ce qui est administratif et paperasse et finance pour pouvoir lancer ce projet et puis avoir son lieu... C'est vraiment quelque chose de super, quoi. Ça permet de faire venir des artistes, de mettre en scène, de jouer, de produire, de pouvoir aussi prendre des spectacles qui me tiennent à cœur. Donc, c'est une belle aventure.
Alors oui, parce qu'il faut dire, au BD Comédie, puisque maintenant il faut dire, la BD Comédie d'Angoulême, voilà, c'est possible effectivement de faire du théâtre, du one-man show. Il va y avoir des rendez-vous dans tous les sens et toute l'année.
C'est ça, on a un créneau ouvert du jeudi au dimanche. Le jeudi, vendredi, samedi soir, il y a un spectacle jeudi à 21h. Le vendredi, samedi, il y a deux spectacles différents à 19h30 et 21h. Et les dimanches, deux dimanches par mois, un spectacle à 15h. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir de la comédie, surtout de l'humour. Moi, c'est vraiment mon créneau. Et puis, de faire aussi découvrir des artistes connus ou moins connus avec du one. Et en l'occurrence, le festival Le Mécontent, c'est vraiment le but de ce festival. C'est on va accueillir 11 humoristes différents sur tout le mois. Et voilà, et c'est vraiment le premier festival d'humour. Il y avait Soyons Fous qui était sur un week-end, mais là c'est vraiment un gros festival qui va durer tout un mois.
Alors c'est du 1er au 31 mai, donc du coup, eh bien oui, ça commence dès après-demain, mercredi, pour ce 1er mai, et la venue d'Élodie Poux. Alors cherchez pas, parce qu'évidemment Élodie Poux c'est complet partout en France, et elle n'a pas dérogé à la règle à la BD Comédie, c'est blindé, mais c'est vrai que là c'est une belle prise et un beau premier coup pour ce 1er mai, Élodie Poux à Angoulême.
C'est la marraine du lieu, puisque je connais Élodie il y a quelques années déjà, même avant qu'elle explose. Et puis j'avais déjà eu l'occasion de la faire venir sur un plateau d'humoriste quand j'étais du côté de Bordeaux, où j'organisais des événements aussi. Et puis quand on a ouvert le lieu, on lui a proposé d'être notre marraine, elle a accepté, et on a la chance de l'avoir le 1er mai, effectivement. Bon, une 160 places, ça fait une petite salle intimiste pour elle maintenant. Et puis on va essayer d'organiser un autre événement en courant 2020 dans une plus grande salle sur Angoulême.
Ah oui, il y a beaucoup de projets, dis-moi, puisque en plus, durant ce mois, vont passer Tristan Lopin qui fermera ce festival le 31 mai, mais on aura aussi Anaïs Petit, que vous aviez pu entendre sur une grande radio nationale il y a quelques années, Olivier Lejeune aussi, ça va faire plaisir, évidemment, à toute une génération de pouvoir retrouver Olivier Lejeune sur scène.
Ça, c'est un vrai cadeau qui soit là. Enfin, moi, je suis très, très flatté de recevoir Olivier Lejeune dans mon théâtre, que c'est quand même un grand monsieur du théâtre français et du cinéma. Et puis voilà, j'étais gamin, je regardais La Classe, donc c'est chouette de pouvoir le recevoir dans son lieu. Puis effectivement, on a Anaïs Petit, Tristan Lopin, on va recevoir Michel Frénat, Kenny Martineau, on va recevoir François Guédon, qui est d'origine charentais aussi, qui est originaire de Châteauneuf. On va recevoir Maé, on va recevoir Thomas Angelvi, que vous avez pu voir dernièrement chez Cyril Hanouna. On va recevoir également Vanessa Caillot et Jean-Loup de Tapia. Voilà, donc une belle panoplie d'humoristes et d'artistes pendant tout le mois de mai à la BD Comédie.
Ah oui, t'as fait la part belle évidemment aux humoristes nationaux, mais aussi aux humoristes locaux, puisque Vanessa Caillot, elle est de Saintes, aussi Charente-Maritime.
Il y a deux locaux qui font une étape ici, qui cartonnent tous les deux, qui commencent à cartonner un petit peu partout en France et à Paris. Mais ouais, c'est chouette de les recevoir. Puis il y a Jean-Loup de Tapia aussi, vers l'île de Ré. Donc voilà, il y a quand même trois nouvelles Aquitaines, on va dire, dans le festival.
Julien, si on avait une baguette magique et que tu me dises, qu'on te dit par exemple, tu peux avoir n'importe quel humoriste sur ta scène, lequel tu rêverais d'accueillir à BD Comédie?
Il y en a plusieurs. Il y a Blanche Gardin que j'ai contactée. Je sais pas si j'arriverai à l'avoir un jour. J'ai Haroun. Après, il y a Cartman que j'aime bien dans l'esprit humoriste. Et puis, il y en a un paquet, Après, c'est vrai que depuis 20 ans que je fais le métier, j'ai la chance d'en avoir rencontré pas mal et j'ai fait du one moi-même et j'en refais un d'ailleurs à partir de juin dans mon théâtre. Je fais un nouveau one, mais j'ai l'opportunité de connaître quand même pas mal de monde. Donc, il y a d'autres noms déjà prévus pour la deuxième édition. On va faire les choses par ordre. C'est vrai que là, nous, on a ouvert il y a 3 mois, donc c'est un dur combat parce que il y a beaucoup de gens à Angoulême qui savent que c'était fermé il y a quelques temps, donc ils savent pas que c'est rouvert. pourtant on fait beaucoup de communication. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'ils vont venir mais qui viennent pas, donc c'est vrai que bah il faut que les gens aussi les Charentais bougent et viennent, parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir perdurer. C'est pas évident, donc voilà, c'est un long combat, il faut se battre tout le temps et sans arrêt faire connaître le lieu. Donc on a besoin de vous, n'hésitez pas, on a besoin de vous.
On rappelle, Julien, l'adresse pour retrouver la BD Comédie d'Angoulême maintenant, hein.
Alors, la BD Comédie d'Angoulême se situe ZA Les Avenaux à Gonpontouvre, sur la zone des montagnes, pas très loin du Lidl et de la Servoiserie pour avoir un point de repère. Et sinon, vous en retrouvez toutes les infos aussi sur notre site internet www.labdcomedie.com. Et on a également des applis téléphone qui sont en téléchargement gratuit. Sur Apple et Android, vous tapez la BD Comédie, vous pouvez télécharger l'appli gratuitement et ça vous permet de recevoir des petits codes promo de temps en temps
et d'avoir le programme.
D'avoir un temps d'avance.
Et avoir le programme des festivités, bien évidemment.
Exactement.
Julien, pour justement tous ceux qui vont rater le spectacle d'Élodie Poux mercredi, ils vont être nombreux puisque évidemment c'est déjà blindé. On va se quitter avec un petit extrait de son spectacle.
Ah bah avec grand plaisir.
Merci à toi Julien et à très vite.
Merci, à très bientôt Alain, merci à tous, au revoir.
Moi je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. Alors j'ai dit bon, l'humour, pourquoi pas.
Ouais,
j'aime les petits enfants. Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos, hein.
Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh bien, ça veut dire que tu me fais chier. Avant, ce théâtre appartenait à nos parents, mais maintenant...
Ils sont morts.
Oh, ils sont trop cuits, les petits pois.
Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles, comme ça.
C'est pas juste. Il est roi. Mais pourquoi tu nous laisses pas rentrer?
Tous mes enfants, ils sont hyper actifs.
Allez, on marque une petite pause dans Chut, on écoute la télé, on revient dans un instant, on vous le dit, c'est avec Jean-Charles Chagache-Bagnon. Nous serons également avec les scénaristes de la série Candice Renoir. Et puis, bien d'autres surprises vous attendent. Un hommage à Grégory Lemarchal et Pierre Lemarchal, son papa. Tout ça, c'est dans 3 minutes dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Indiscrétion, scoop. News. Tout de suite, l'infomédia.
Allez, en bref, dans l'infomédia, cette semaine, le lundi 13 mai prochain, 21h, M6 lancera la nouvelle saison du meilleur pâtissier professionnel, intitulée Le choc des nations et présentée par Julia Vignali. C'est 12 brigades de pâtissiers professionnels qui vont s'affronter lors de duels au sommet entre le Brésil, le Maroc, la Russie, l'Argentine, le Canada et l'Italie. Eh bien, ce sont de redoutables brigades de pâtissiers professionnels qui sont venues des quatre coins du monde pour défier 6 prestigieuses brigades arrivées des quatre coins de la France. La saison 9 de Clem est la saison du changement, en plus du saut dans le temps de 6 ans. Le personnage de Salomé ne sera plus joué par Léa Lopez, mais par Joséphine Berry, la fille de réalisateur Richard Berry. L'arrivée de l'actrice dans la série de TF1 se dévoile sur quelques photos publiées pour annoncer la date de diffusion. Eh bien oui, puisque Clem fait sa révolution, ça sera le lundi 13 mai prochain à partir de 21h10 que TF1 donnera le coup d'envoi de la diffusion de cette saison 9 de Clem. Une saison de 6 fois 52 minutes, pas comme les autres, puisqu'elle marquera un gros tournant dans l'histoire de la série. Figure phare des 8 premières saisons, Victoria Avril, interprète du personnage de Caro, n'a pas été reconduite. Philippe Lelouch, Léa Lopez et Kevin Ellarby ne remplissent pas. Ces départs sont compensés par quelques arrivées, dont Gabriel, ex Kids United, ou encore Guillaume Faure, vu dans la série Demain nous appartient. Et c'est le début de la nouvelle saison d'Alice Nevers, le 16 mai prochain, à partir de 21h, qui aura de quoi ravir les fidèles téléspectateurs, puisque dans le premier épisode intitulé Série Noire, les fans auront droit à 2 séries pour le prix d'une, avec un crossover Alice Nevers section de recherche. Cet épisode inédit sera diffusé donc le 16 mai à 21h sur TF1. Il sera composé de 2 parties reprenant la suite de la saison 16 qui s'achevait sur l'enlèvement de l'héroïne par un kidnappeur. En février dernier, on vous révélait que TF1 préparait en secret le retour de Qui veut gagner des millions. Et bien c'est désormais officiel. C'est le 13 mai prochain à 18h15 que les téléspectateurs de la chaîne retrouveront des anonymes dans les fauteuils des candidats. Et enceinte de son premier enfant, Ophélie Meunier cédera son siège de zone interdite à partir du 19 mai prochain à Florence Trénard, comme l'a révélé samedi dernier le site du Plateau Télé. Et puis c'est dans un communiqué que France 2 annonce les deux dernières émissions de Patrick Sébastien. Vous retrouverez le dernier numéro du plus grand cabaret du monde samedi prochain et des années bonheur le 11 mai prochain. Voilà ce qu'on pouvait voir donc et ce qu'on pouvait lire, en tout cas des annonces médias dans la presse.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et dans nos coups de cœur, eh bien cette semaine, c'est le nouveau grand rendez-vous musical qu'M6 va vous proposer. Eh bien, dès demain, aux côtés d'Éric Antoine et de Garou, c'est Together, tous avec moi. Et justement, pour décortiquer un petit peu les coulisses de l'émission, eh bien, on a un des participants, Charentais-Maritime, c'est Dylan qui est avec nous. Bonjour Dylan.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors Dylan, Together, tous avec moi, un jeu musical. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que tu chantes dans la vie ou est-ce que c'est juste un défi que tu t'es lancé? Comment ça s'est passé?
Alors non, du tout, ce n'est pas un défi que je me suis lancé. C'est tout simplement, oui, je chante dans la vie. Je fais plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et c'est ce qui m'a permis de faire l'émission sur M6, Together No. Donc c'était pour moi une très très belle aventure et je suis fier d'avoir fait cette émission qui a été une très belle expérience pour moi.
Alors Dylan, pourquoi cette émission, plus que The Voice ou La France a un incroyable talent? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le concept?
Ce qui m'a attiré dans le concept, c'est que c'est un nouveau concept qui arrive sur les chaînes françaises, sur M6. Et tout simplement, The Voice, par rapport à ça, j'avais fait les castings de The Voice et j'ai vu que je n'avais pas été rappelé par la production de The Voice. Donc M6 m'a contacté et puis ils m'ont dit si j'étais intéressé pour faire une nouvelle émission qui arrive en avril prochain, donc en avril 2019. Et j'étais très intéressé et pour moi... de faire l'émission, ça a changé, c'est un nouveau challenge pour moi et ça m'a fait plaisir de participer à cette émission.
Alors on va parler un peu du concept. Tu as un mur de 100 professionnels de la chanson, ça peut être des stars de comédie musicale, je sais par exemple notre ami David Van était dans le jury, mais il y en a eu évidemment plein d'autres, 100 professionnels devant soi qui se lèvent en fonction de la prestation et plus il y en a qui se lèvent, plus tu vas loin dans le jeu et plus tu peux être sélectionné pour la finale, c'est ça en gros?
Exactement, et pour moi d'avoir chanté devant un immense chanteur qui s'appelle Garou, qui a une grande carrière internationale, ça fait tout drôle quand on vient d'ici, le point de Charente-Maritime, et tu te retrouves à chanter devant un chanteur qui a des énormes qualités, qui a une immense carrière, je trouve que c'était un truc de malade, quoi. Je me disais je suis dans un rêve, non je suis pas dans un rêve, et c'était vraiment réel, et je me suis dit ouais c'était impressionnant ouais, quand même, c'est vraiment un truc de ouf quoi.
Ta rencontre avec Éric Antoine?
C'est vraiment un gars super simple, avec très souriant, vraiment qui aime son métier. Vraiment, c'était cool d'avoir discuté et puis échanger des mots avec Éric Antoine. Ouais.
Alors ça doit être impressionnant. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu arrives comme ça sur scène et tu te lances dans une prestation devant 100 professionnels? On ressent quoi à ce moment-là?
C'est sûr qu'on se met toujours une petite pression. C'est vrai que quand on fait son premier plateau télé, sa première télévision, ça fait tout drôle. Tu dis ce qu'il faut pas que tu te loues, faut vraiment que ce soit vraiment vraiment parfait quoi. Mais quand t'arrives sur scène, t'as toujours un petit peu de stress et tu te dis maintenant faut que tu ouvres les yeux et tu te dis que t'es sur un plateau et tu restes toi-même et tu sais de ce que tu es capable de faire et c'est ce que j'ai fait tout simplement.
T'as choisi quoi comme chanson?
Alors j'ai choisi Luis Fonsi, Despacito. C'est une chanson que tout le monde, je pense, dans le monde connaît.
Oui, qui a été une des chansons les plus téléchargées au monde.
Voilà,
elle est plus vue sur YouTube.
Ça, ouais, exactement, sur la plateforme YouTube, c'est vrai que c'est la plus vue. Et du coup, j'ai choisi cette chanson. C'est une chanson qui ambiance énormément de personnes de tout âge. Et j'ai pris ça et je me suis dit, allez Dylan, lâche-toi. Et c'est ce qui s'est passé sur le plateau.
Alors sans nous révéler évidemment l'issue de ta prestation, pour savoir si t'es en finale ou pas, il faudra regarder bien évidemment l'émission. Mais avec le recul aujourd'hui, puisque l'émission a été mise en boîte il y a plusieurs mois maintenant, est-ce que tu referais exactement tout pareil ou est-ce que t'as des regrets là?
Non, j'ai pas de regrets. Pour moi, c'était un challenge pour moi et j'en suis fier. Donc non, je n'ai pas de regrets. J'ai hâte maintenant de me voir derrière l'écran et de montrer surtout à ma famille qui peuvent être fiers de moi à l'heure d'aujourd'hui. Donc je suis un petit garçon qui vient de très très loin au niveau de la musique et qui a toujours eu des qualités comme des défauts, comme on dit. Et j'étais beaucoup rabaissé et je me suis dit que c'est en travaillant sa voix et ça progresse tout seul. Et puis voilà quoi. Moi, je me suis jamais dit. Je me suis jamais posé la question, j'ai toujours foncé et puis maintenant c'était super pour moi, c'était une très belle aventure, c'était vraiment un nouveau challenge et un nouveau défi qui s'est réalisé et je suis fier de moi à l'heure d'aujourd'hui.
Dylan, c'est quoi tes modèles musicaux pour toi aujourd'hui?
Par exemple, Ed Sheeran, pour moi c'est un chanteur qui a une sacrée voix, c'est vraiment le style Ed Sheeran, Daniel, Luis Fonsi, j'aime bien Claudio Capeo, j'aime de tout, j'aime les frérots de la Vega, maintenant ils sont plus... sont séparés, mais pour moi, c'est ce genre de chanteur qui me donnait l'envie de chanter. Ouais.
T'as quel âge, Dylan?
J'ai 22 ans.
T'as envie d'en faire ton métier?
Exactement, oui. Ça, pour moi, c'est un rêve. Quand on commence depuis tout petit et quand tu vois que bah, des personnes arrivent à passer à la radio, à la télé, tu te dis, bah, t'as envie de faire comme eux, comme je pense plein de jeunes en France. Bah, voilà, c'est leur rêve de devenir footballeur ou chanteur dans tout sport. Et puis, moi, c'est vraiment un métier que j'aurais vraiment aimé faire. Et voilà, je vais continuer à travailler, à progresser et puis de continuer ce que j'aime faire, la passion, voilà, la musique.
Eh bien, on lâche rien, en tout cas, Dylan. Et puis, on te retrouve donc dans Together, tous avec moi. Nouvelle émission d'M6 avec Garou, Eric, Antoine. Au rendez-vous et plus de 100 professionnels dans ce jury. On te découvrira, évidemment, dans une des prochaines émissions. Mais en tout cas, ça démarre demain à partir de 21h sur M6. Merci, Dylan.
Bah, je vous en prie. Et puis, si les personnes souhaitent me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils ont juste à taper Dylan Lapassade sur Facebook, YouTube, Instagram, et ça aurait le grand plaisir de les retrouver et de communiquer avec eux.
Avec deux S et un D.
C'est bien ça, la passade et la PA, deux S, ADE.
Merci beaucoup, à très vite, et on va se quitter avec la bande-annonce de l'émission. À très vite.
Merci à vous, au revoir.
Voici les 100 avancez ça. Les 100 sont chanteurs de comédie musicale.
Déjà, il se passe quelque chose de capillaire entre nous deux, donc tout de suite, elle a ma sympathie.
Rocker.
Cette putain de chanson me fait chier.
Oh, en voix et en bonne humeur.
Je te kiffe grave, super, tu déchires.
Ça m'est rarement arrivé dans ma vie, j'avais une crampe de sourire.
Bienvenue dans ce nouveau jeu musical où faire chanter un maximum de professionnels avec vous peut vous permettre de remporter 50 000 euros. Pendant plusieurs semaines, des candidats se présenteront face à eux pour tenter de remporter leur place en finale. Plus il y a de membres des 100 qui se lèvent pour l'accompagner, plus le score du candidat est élevé. Mais avec autant de goûts musicaux et 50 000 euros à la clé, convaincre les 100 ne sera pas facile.
Allez, c'est en plein tournage de Péril au château, un très beau film réalisé par Claire de La Rochefoucauld qu'on a retrouvé un des protagonistes de l'histoire qui joue le rôle d'Alex. Eh bien, c'est Jean-Charles Chagache-Bagnan que vous connaissez bien évidemment sous le rôle de Franck Ruiz dans Plus belle la vie aussi. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
C'est un véritable plaisir de te retrouver alors sans Madison, hein, ce coup-ci. Donc on n'a pas le chien dans les pattes, mais est-ce qu'elle te manque pas un peu?
Mais oui, elle me manque un peu parce qu'elle est tellement mignonne. Tellement jolie. C'est la meilleure comédienne avec qui j'ai tourné sur Plus belle la vie, quand même. Non, quand je dis ça, ça fait râler mes camarades, mais non, c'est un vrai bonheur de tourner avec elle, et bien évidemment, elle me manque, mais j'ai quand même mon chien à moi dans la vie, qui s'appelle Lino. C'est pas Madison.
C'est pas Madison. En tout cas, il y a dû y avoir des scènes vraiment très drôles, hein, à tourner avec cette petite chienne.
Ah oui, on s'est bien marré, avec Cécilia, notamment, Pauline qui joue Emma, Cécilia qui joue Blanche. Oui, on s'est bien marré, on a eu des bons fous rires, quoi, parce que c'est tellement ça reste toujours sur l'instant avec un animal, parce que même si elle est un petit peu dressée, elle peut pas non plus faire tout ce qu'on lui demande. Donc il y a toujours une petite part d'improvisation qui est très sympa, quoi.
Alors ça fait du bien de s'aérer aussi, voilà, de sortir des studios de Marseille et de venir, bah, par exemple dans notre région Nouvelle-Aquitaine, tourner ce film en Charente.
Ça me fait du bien de m'aérer, surtout dans cette région qui est quand même magnifique, dans un décor qui est sublimissime. Donc voilà, c'est le château de La Rochefoucauld et qui est entretenu. Enfin, il est sublime, quoi. On est là, c'est un vrai personnage. Le décor est un personnage, quoi. Donc quand on arrive là et qu'on a des intérieurs à faire là, bah on a qu'à se laisser aller à recevoir ce que le château nous donne. C'est très chargé et ça fait beaucoup de bien. Ouais.
On était quasiment les premiers au courant de ce projet de film. Et Claire de La Rochefoucauld, sans trahir de secret, qui réalise des épisodes de Plus belle la vie aussi avec toi, avait pensé l'histoire directement, ce duo avec toi et Annie. Quand elle te l'a proposé, comment t'as réagi?
Bah, j'étais très heureux d'abord parce que je trouve que voilà, j'étais très flatté de tourner avec Annie Dupéret, qui est quand même une très belle actrice. Voilà. Et après, il y a eu la rencontre avec Annie. Et puis, ça s'est passé de manière tellement fluide que voilà, aujourd'hui, là, on est en plein tournage. Et c'est vraiment bien ce qui se passe entre nous. D'ailleurs, tout le casting est formidable de ce film.
Alors, pendant le tournage, justement, au château, vous avez tourné 7 jours au château, tous ensemble. Quelle était la scène pour toi qui t'a peut-être marqué le plus?
Alors, la scène qui m'a le plus marqué dans le château, c'est peut-être celle que je viens de tourner, mais c'est en extérieur. C'est la dernière scène du film.
Des projets, grosse intrigue dans Plus belle la vie à venir. On va terminer par ça puisque je crois que tu vas avoir un printemps studieux après, hein, à partir du mois de mai.
Ouais, normalement, oui, j'ai une intrigue qui commence au mois de mai. Ils appellent ça une arche A. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais en tout cas, apparemment, ça va être un peu chargé, oui.
Ça va tourner autour de la famille avec Cécilia.
Je pense qu'il y aura Cécilia dans l'intrigue. Il y aura certainement Rebecca Hampton aussi. Après, on nous tient au courant des intrigues, mais pas forcément de tous les personnages qui s'y rattachent au début. Donc là, pour l'instant, je sais que Rebecca sera là et Cécilia aussi. Et après, je ne sais pas.
À venir, bientôt. On verra ça dès cet été, puisqu'on te verra du coup tout l'été à l'écran.
Voilà, c'est ça.
Et prochainement dans Péri le Château, ça sera sur France 3 également. Merci Jean-Charles.
Merci à vous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Candice Renoir, hein, vous savez qu'il a fait son retour sur France 2. Eh bien, nous allons parler maintenant écriture sur cette série. On va parler scénario avec Fabienne Facot et Marc Cressman qui nous ont rejoints, qui sont les auteurs de cette série. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler écriture, parce que je trouve ça intéressant, voilà, d'expliquer un petit peu comment se déroule l'écriture d'un scénario sur une série telle que Candice Renoir, qui est quand même une série maintenant au long cours, qui est à sa saison 7. Donc, du coup, il faut garder un lien, garder évidemment le caractère des personnages. Et quand on travaille à plusieurs, est-ce que c'est évident, Fabienne ?
Alors oui, je dirais que c'est même plus agréable parce qu'on rebondit, parce que deux cerveaux valent mieux qu'un, comme on dit. Et on trouve des angles qui sont peut-être plus surprenants que si on était tout seul devant sa feuille.
Alors Marc, on a eu l'occasion de t'accueillir l'année dernière, justement avec Ali Mariard, qui joue Mehdi Badou. Tu étais avec nous et tu nous as parlé un petit peu justement d'écriture aussi. Alors toi, t'es le directeur de collection. Ça veut dire quoi, un directeur de collection sur une série ?
Alors, directeur de collection, c'est celui qui supervise toute la saison, de tous les épisodes, toute l'écriture, et qui à la fois souvent écrit les arches, c'est-à-dire qui va donner un peu le ton de la saison, les personnages, leur destinée, etc. Et il va superviser l'écriture, souvent il co-écrit. Il chapeaute toute l'écriture, toute la saison. C'est lui qui a une vision d'ensemble de toute la saison.
Ça, c'est une tâche qui va incomber pour la saison 8 à Fabienne Facot, qui reprend cette direction de collection.
Oui. Alors, énorme responsabilité de passer après Marc, qui a fait brillamment son travail pendant 3 ans et qui a fait grimper les audiences. Donc, j'ai une grosse, grosse pression.
En combien de temps ça s'écrit ?
En moyenne, pour écrire un épisode, il faut entre 2 et 3 mois à peu près. 3, c'est quand on a vraiment du temps. Mais parfois, on est de plus en plus pressé par les dates de tournage. Et en moyenne, c'est 3 mois à peu près.
Il faut rester évidemment toujours assez grand public, hein, parce qu'on est diffusé à 21h10. Mais quand on écrit des histoires comme ça, est-ce qu'il y a des thèmes qui t'ont plus touché que d'autres dans les épisodes que tu as pu écrire au fil de ces 7 saisons, par exemple, Marc ?
Alors, en plus, pour cette saison 7, voilà, on arrive à un cap. Il faut se renouveler, il faut trouver des choses originales. Donc, on a fait plein de petits épisodes, de grands épisodes, un petit peu différents. Donc, sur les SDF, on a fait un épisode sur les joutes, qui est un univers très particulièrement ancré dans le A7. On a fait un épisode qui se passera entre Paris et 7, où Candice remonte à Paris pour le bien d'une enquête. On a un épisode qui est axé autour d'un meurtre. On sait tout de suite qui est la meurtrière. C'est un épisode Columbo, parce qu'on a souvent comparé Candice à Columbo. Donc là, on le fait vraiment. Donc c'est encore un épisode un petit peu à part.
C'est un peu un crime parfait, là.
Exactement. Mais voilà, c'est avec le personnage de Candice qui se demande si elle a compris qui était la meurtrière, etc. Donc on joue beaucoup avec le public. Et puis, bon, évidemment, un final très surprenant. Mais ça, je n'en dis pas plus.
Donc, on découvrira. Fabienne, pareil, toi, c'est à peu près le même temps sur l'écriture d'un épisode ?
Ah oui, c'est à peu près le même temps. On se dit 3 mois, mais le temps s'accélère. C'est-à-dire qu'au début, on prend un peu notre temps et puis finalement, on s'aperçoit que pour terminer, il nous reste 15 jours pour dialoguer et tout passe très vite et tout d'un coup, c'est la panique.
Pour le coup, est-ce que vous êtes toujours surpris de voir la fidélité du public et de voir l'année dernière, il faut quand même dire que Candice Renoir a battu Koh-Lanta plusieurs fois, hein ?
Alors ça, c'est bravo Marc qui a su trouver des angles, qui a su toujours surprendre. Et puis il y a cette comédienne aussi qui a un lien très particulier. Cécile a un lien très particulier avec le public, qui l'adore. Hein. Et je crois qu'on est très gâtés. On a une belle équipe. C'est un esprit de famille, Candice, et on est tous très très heureux.
Oui, on est toujours surpris. À chaque fois, on se dit ah non, cette année ça va baisser, les gens vont se lasser. Pas du tout, ça monte à chaque fois. Donc bon, pourvu que ça dure, à un moment. Évidemment, mais c'est vraiment extraordinaire. Un tel succès, je pense que c'est vraiment lié principalement à Cécile Bois, qui est un personnage solaire, drôle, que les gens ont envie de retrouver. Et puis un petit peu aussi notre travail d'écriture, de production, de jeu, enfin tout le monde, mais c'est un travail d'équipe. Mais je pense que vraiment, c'est Candice Renoir, c'est Cécile.
Si c'est la fin d'une aventure pour toi, Marc, je suppose que c'est aussi le début peut-être d'une autre. Est-ce qu'il y a des projets pour toi?
Eh bien oui, moi je m'étais dit saison 7, c'est bien, ça sonne bien, en plus ça se passe à 7. Je suis un peu superstitieux, je me dis j'arrête là, et puis j'avais travaillé pendant 5 ans sur la série et j'ai voulu me consacrer à d'autres projets, et puis à peine avais-je dit que j'arrêtais Candice qu'on m'a appelé pour une autre série qui est pas mal non plus, qui s'appelle Munch.
Oui, pour TF1 avec Isabelle Nanty.
Voilà, absolument, et on commence le tournage bientôt.
Et donc, la nouvelle saison. Très bien, qui fera combien d'épisodes?
Je ne sais pas encore.
Bon, 6, 8, on verra. Alors, on en reparlera bien évidemment, tu seras le bienvenu. Bon, Fabienne, j'ai bien compris qu'il fallait se mettre plus qu'au boulot sérieusement. Tu vas encore avoir le temps de dormir un petit peu ou comment ça va se passer?
Ah, ça y est, je ne dors plus déjà depuis quelques mois. Non, écoutez, c'est une belle aventure, je suis ravie. J'ai réuni des auteurs historiques de la série avec de jeunes auteurs aussi qui viennent d'entrer. J'ai constitué un atelier d'écriture pour travailler l'arche de la prochaine saison. Et là, on en est au début de l'écriture. Hein, donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence.
Oui, donc à peine terminé d'écrire, ça y est, le tournage démarre là ces jours-ci bientôt.
Hein. Oui, on enchaîne, on ne s'arrête jamais en fait. Hein, on enchaîne toujours les épisodes. Et voilà, mais tant mieux, c'est bien.
En tout cas, on va pas bouder notre plaisir. Candice Renoir, ça sera à partir de 21h10, juste après un si grand soleil sur France 2. Merci à tous les deux.
Merci Alain.
Merci, au revoir.
Tu sais, je voulais te dire que je suis conscient de ce que ça représente pour toi, d'avoir demandé à ta sœur de faire ses valises.
Non, non, mais en même temps, t'avais raison. C'est vrai, il fallait qu'on se retrouve tous les deux.
Mais
je suis inquiète.
Ta sœur n'est pas une petite fille, elle va très bien se débrouiller.
Sûrement, mais je l'ai quand même foutue à la porte, quoi. Elle a pas de travail. Donc du coup, où est-ce qu'elle va aller? Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai essayé de l'appeler, hein. Elle décroche pas. Max.
Allez, coup de cœur télé dans Chute, on écoute la télé, évidemment, avec Plus belle la vie, on en parle hein, très régulièrement avec les comédiens de la série qui viennent régulièrement nous voir pour notre plus grand plaisir, et là on en a deux pour le prix d'un. Aujourd'hui c'est le comico hein, du Mistral qui nous rejoint avec Régis Ménard et Lola Marois, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut, salut.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors le personnage d'Ariane a connu, on va dire, des semaines compliquées hein, ces dernières semaines.
Oui, oui, des semaines compliquées, même des mois d'ailleurs. Mais elle était vraiment dans une relation un peu, je pense, tampon. En tout cas, ce qu'on appelle une relation tampon, c'est-à-dire elle était plutôt là pour panser les blessures de Bauer avec Samia, je pense. Et donc, voilà, quoi, on récupère pas forcément son passé. C'était son ex il y a 10 ans. Elle a voulu s'acharner et puis bon, bah ça lui est retombé dessus. Et Bauer était toujours amoureux de Samia, donc ça n'a pas été facile pour elle.
Alors même si Ariane est une fille cash, je sais pas si tu vas me contrer, Régis, mais je pense que même si Ariane est une fiche cash, on a eu envie de pleurer avec elle. Elle nous a attendris. Et pour la première fois, on a découvert justement une Ariane tendre, limite romantique, vraiment touchée par cette histoire. Donc ça a dû être sympa à jouer aussi. C'était une autre palette du personnage.
Oui, absolument, c'était une autre palette du personnage. C'était très intéressant de jouer cette extrême fragilité et de montrer son écorchure parce qu'elle est très écorchée. Donc, on sait qu'elle est grande gueule depuis le début de la série, mais on sait aussi depuis le début que quand elle est face à Bauer, elle devient un peu une petite fille, quoi. Donc, elle a ce côté double personnalité. En amour, elle devient vraiment... C'est une romantique, quoi, dans le fond. Donc, bon, c'est vrai que là, on l'a vu craquer et ça a touché beaucoup de gens.
Alors, Régis, personnage d'Éric Normand, un flic dur au cœur tendre, qui cache des secrets. Et en parlant de tampons, évidemment, là, entre Thomas et Gabriel, il en fait un beau tampon.
Eh ben oui, bah, il y a eu cette fameuse soirée du réveillon où, ma foi, un rapprochement...
Ça a commencé.
Un rapprochement s'est opéré. Et puis, oui, je crois qu'il a servi de tampon dans cette histoire entre Gabriel et Thomas, inconsciemment je pense de la part de Thomas parce que c'est pas un mauvais bougre, il s'en est pas servi vraiment de manière consciente, mais il y a eu ce rapprochement et je pense que le personnage, enfin moi c'est comme ça que je l'ai, je pense qu'il a eu un petit coup de cœur pour Thomas et le gros dur s'est fissuré, donc c'est très intéressant à jouer.
Alors en plus, le comico accueille un bleu, et pas des moindres, elle a une scène à mourir de rire, c'est quand Ariane est dans le... évidemment au milieu du Mistral et que là il arrive et qu'il lui demande de ramasser ce qu'elle a acheté.
C'est vraiment incroyable et là j'ai vraiment envie de tirer un chapeau bas aux auteurs parce que cette séquence là depuis qu'elle a été diffusée, tout le monde m'en parle. C'est je pense que ça va être une séquence assez marquante de la saison 15 de Plus belle la vie, parce que vraiment, quoi qu'il ose dire à Ariane, qu'on connaît pour quand même avoir la dent dure et vraiment pas se laisser faire, elle a quand même un caractère particulièrement bien trempé, et qu'il ose lui dire chewing-gum, allez ma petite dame, enfin du coup c'est vraiment très cocasse, c'est vraiment drôle comme situation, c'est un vrai comique de situation, et vraiment chapeau aux auteurs d'avoir ce genre d'idée, parce que c'est à mourir de rire, quoi.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage en commun? On va voir si c'est le même. Tiens, peut-être une scène que vous avez eue ensemble qui s'est terminée par un fou rire général ou vous avez dû avoir du mal à mettre en boîte.
Alors moi, ça serait pas un fou rire, alors qu'on en a plein des fou rires, mais ça serait plutôt une scène d'émotion. Et j'ai beaucoup aimé une scène qui a été diffusée dernièrement où quand Ariane pleure dans le vestiaire, elle est assise par terre et je la rejoins par terre. Et moi ça reste un très bon souvenir, parce qu'en plus on a dû tourner ça, je crois, peut-être en fin de journée. Toi t'avais tourné beaucoup, t'avais tourné plein de séquences.
J'allais vraiment.
Et bizarrement c'était une des premières fois où on était tous les deux ouais vraiment dans cette émotion là, et où je la récupérais, je la ramassais à la cuillère, enfin où Eric Normand récupérait Ariane à la cuillère, quoi. Et ça, moi ça reste un très très bon souvenir, quelque chose de l'enfance, quoi. On est tous les deux posés par terre comme deux gamins dans une cour de récré, chagrin d'amour, machin. Et ça, enfin, voilà.
Moi, j'avais bien aimé certaines interventions assez musclées qu'on faisait avec Régis au début, à notre arrivée dans la série. En fait, j'ai des très bons souvenirs des toutes premières interventions qu'on faisait en mode flic de terrain, quoi. C'est-à-dire à dégainer les armes, à sortir les menottes. Les premières interventions de vrais flics de terrain qu'on a eues ensemble restent pour moi les souvenirs les plus forts, parce qu'on venait d'arriver, donc il y a l'excitation des premiers temps. Hein, c'est comme dans tout, c'est toujours très excitant au début. Donc, je dirais les premières séquences de tournage extérieur où il fallait faire des arrestations musclées et où j'ai vraiment pris conscience que ça y est, on était les deux nouveaux flics du Mistral et qu'on allait vivre comme ça des moments musclés, et puis un rôle comme ça musclé, quoi.
Vous êtes à l'écran depuis 2 ans tous les deux. Oui. Est-ce que vous arrivez à vous faire arrêter que quand la police voit vos têtes? Quelle est leur réaction? Est-ce que ça vous a permis quelques petits passe-droits?
On devrait peut-être pas le dire, mais ça m'a permis quelques petits passe-droits.
Bon, moi, je vais pas tout raconter, mais je vais juste raconter un bout de l'histoire qui m'est arrivé une fois avec un motard, en fait. Et le gars me reconnaît et au final veut faire un selfie pour sa femme et il le fait avec le casque. Et je lui dis, peut-être enlevez votre casque, parce qu'il avait on le reconnaissait pas, quoi. Donc il a fini par enlever son casque et on a fait le selfie. Après, je peux pas raconter le reste de l'histoire.
Il t'a mis la prune?
Hein?
Il t'a mis la prune ou pas?
Non.
Bah voilà. Bon, des projets.
Bah, écoute, moi j'ai l'honneur d'être dans le prochain film d'Yvan Attal qui s'appelle Mon chien stupide. Donc où j'ai pu tourner aux côtés de Yvan Attal, de son fils, où je joue donc sa petite amie, Charlotte Gainsbourg. C'était vraiment formidable. Le film sortira, je pense, d'ici quelques mois. Et puis j'ai des projets aussi avec mon bouquin que j'adapte en bande dessinée, Bad Girl. Donc voilà pour le cinéma, et puis on espère plein d'autres choses. Pas mal de propositions depuis la diffusion du Prime Time Secret, où j'avais un très joli rôle. Donc le téléphone a un peu plus sonné, donc on espère que ça va aboutir. Voilà, pour l'instant c'est encore un peu frais.
C'est tout ce qu'on vous espère à tous les deux. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc évidemment tous les soirs sur France 3, 20h20. C'est le rendez-vous qu'on vous donne et on vous souhaite tout le meilleur.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup, gros bisous à tous.
Ciao. 3000 euros de dommages et intérêts?
Non mais c'est du délire. Connard de directeur. Je suis désolée pour l'accueil, j'ai plus de champagne dans le minibar. Elle est majeure, t'es pas son tuteur?
Je suis encore son mari.
Pas de téléphone, pas de musique. Il a même bridé le volume de la télévision pour être sûr qu'on monte pas le son. Non mais...
Il avait déjà fait ça avant?
Non, jamais.
Là, c'est grave.
Je suis sûr qu'il est toujours en relation avec Messaoud. Je te connais bien, tu sais. Depuis que t'es toute petite. C'est toujours bien de savoir quel est le point faible de quelqu'un, ça peut être utile.
Vous avez tous les symptômes du diabète?
À mon avis, si on se mène pas, il va pas pouvoir parler très longtemps encore.
Je vais voir ce que je peux faire, je vais passer l'info très vite.
Insuffisance rénale, gangrène, impuissance sexuelle. Puis c'est pas les seules emmerdes qui t'attendent.
Oh non.
T'as les frères Liberati aussi.
On n'aura sûrement plus jamais une occasion pareille. Nebou a réussi à le faire parler. Demain au top, mais ça oublie.
Allez, il nous a quitté il y a 12 ans. Voilà, 12 ans exactement. On va lui rendre hommage dans un instant à Grégory Lemarchal avec son père, Pierre Lemarchal. Avec nous dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé. C'est un triste anniversaire hein, sur lequel on va s'attarder évidemment. 12 ans qui nous a déjà quittés, Grégory Lemarchal. Et évidemment, eh bien, nous allons lui rendre hommage aujourd'hui avec Pierre Lemarchal, son papa, qui va nous dire tout sur les avancées de la maladie, tout ce qu'apporte l'association effectivement à la maladie, et puis un passage aussi à Saint-Brice-sur-Vienne en concert au profit de l'association Grégory Lemarchal. Ça sera le 30 juin prochain. On parle de tout ça juste avant ce premier extrait. C'est celui qui a fait évidemment découvrir le premier single de Grégory. C'était Écrit l'histoire, écoutez.
Écrit l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si
Et le combat continue, évidemment, contre la mucoviscidose, et on est avec Pierre Lemarchal qui est avec nous en ligne pour en parler. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors évidemment, en 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses. La médecine, évidemment, a évolué, et grâce à l'association Grégory Lemarchal, il s'est passé beaucoup de choses qui ont permis aujourd'hui peut-être aux malades de mieux vivre leur maladie.
Oui, c'est exactement ça. Grâce à l'association Grégory Lemarchal, on n'a pas le monopole de tout ça, mais effectivement, ça a fait le passage de Grégory a fait qu'on parle beaucoup plus facilement de mucoviscidose. Et depuis 12 ans, effectivement, on a fait beaucoup de choses en termes de financement de recherche déjà. Nos chercheurs sont en train de travailler sur des molécules qui laissent présager, petit à petit, un moyen de respirer convenablement, on va dire, pour les gens qui sont atteints de mucoviscidose, avec une échéance bien sûr qui est repoussée. On ne guérit toujours pas de la mucoviscidose, mais on arrive à trouver des médicaments, des molécules qui nous permettent d'avoir pas mal d'espoir, pas forcément sur une guérison évidemment, puisque ça c'est la thérapie génique qui fera son bout de chemin, mais en termes d'amélioration de capacité respiratoire, oui, c'est vrai qu'en 12 ans il s'est passé énormément de choses. Et puis on s'occupe toujours autant de la qualité de vie de nos patients, hein, que ce soit à l'hôpital ou chez eux, et là aussi avec beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les hôpitaux, en termes de réfection de services par exemple, et puis également sur les projets de vie de ces jeunes atteints de cette maladie qui sont de plus en plus âgés, on va dire, et ça c'est une bonne nouvelle, puisqu'on mourait à l'âge de 10 ans de la mucoviscidose il y a une trentaine d'années en arrière, et là que maintenant cette échéance elle est repoussée autour de 28-30 ans. Enfin tout ceci c'est des moyennes, mais qui nous satisfait d'un côté, parce que c'est vrai qu'on voit les améliorations, mais en même temps on n'arrive toujours pas à guérir cette maladie, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire.
Alors, 15 ans sont passés depuis que Grégory a remporté la Star Academy 4, pour le coup, ça fait 15 ans cette année. Comment expliquer aujourd'hui qu'il soit encore, que ses chansons soient sur toutes les lèvres, qu'aujourd'hui personne ne l'ait oublié? C'est unique.
Oui, c'est vrai que c'est surprenant, on a plein de fierté par rapport à ça. Effectivement, il a marqué son temps, Grégory, et je pense que ça a marqué beaucoup de gens, et ça marque encore beaucoup de personnes, même les jeunes d'ailleurs, qui n'ont pas forcément connu Grégory, mais qui parle de Grégory comme s'il le connaissait très bien, et ça c'est quelque chose bien sûr qui nous fait plaisir, et en même temps qui nous aide dans le combat qui est le nôtre, parce que Grégory est une référence, bon, au niveau artiste ça c'est une chose, mais également au niveau du combat qu'il menait contre la mucoviscidose, et qui a fait en sorte que la mucoviscidose est sortie de l'ombre quelque part grâce à lui, inconsciemment. Voilà. Et le fait de parler de Grégory encore maintenant, moi, tous les week-ends, je rencontre des gens qui me parlent de Grégory, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose qui nous touche énormément, bien sûr.
Ça aide un peu, Pierre, quelque part, même si on peut imaginer la souffrance et la douleur que ça peut être encore.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, il y en a qui nous demandent si on a fait notre deuil, mais on ne fait pas le deuil de la perte d'un enfant, c'est impossible. C'est contre nature. Et bien sûr que ça nous aide. Ça nous aide, nous, dans l'association qu'on a montée après le départ de Greg, et j'avoue qu'on fait de belles choses justement grâce à cette notoriété qu'avait Grégory, et maintenant les choses qui avancent, que ce soit en termes médical ou que ce soit en termes de quotidien de ses patients, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup maintenant, et puis ça nous aide aussi, je le cache pas, personnellement c'est quelque part pour nous un moyen aussi de faire vivre encore Grégory.
Et qu'il ne soit pas parti pour rien.
Voilà, je crois que c'est le plus qu'il faut ressortir et voilà, on est tout autant motivés, on lâchera rien de toute façon. C'est notre vie maintenant avec mon épouse, ma fille et les gens qui sont proches de nous, donc voilà, on ne lâchera rien et on continuera. Et quand on voit les progrès que fait cette maladie en termes de recherche, ça nous conforte dans le combat qui est le nôtre.
Alors un combat de tous les jours et qui permet, grâce à des actions qui sont menées en région, évidemment de financer des recherches ou tout simplement voilà de faire parler de la maladie, ça c'est important. Et la prochaine dans notre région Nouvelle-Aquitaine, ça sera le 30 juin, Pierre, puisque tu viendras chanter à Saint-Brice-sur-Vienne, en Haute-Vienne, dans le 87, donc un rendez-vous à ne pas manquer bien évidemment.
Oui, avec un grand plaisir, hein. Voilà, on tourne avec ces concerts, bon, je fais pas que ça évidemment, mais je fais beaucoup de concerts le week-end. Pour sensibiliser les gens sur la mucoviscidose, puis à travers une belle soirée sur le thème de chansons françaises où voilà, il y en a pour tous les goûts et les gens passent de très bonnes soirées avec ça. Et en même temps, moi, ça me permet aussi de rencontrer des gens touchés indirectement ou directement par la mucoviscidose. C'était le but un peu de ce qu'on a mis en place et ça fait 12 ans qu'on fait ça. Ça fonctionne, donc moi j'y retrouve mon compte dans toutes les actions qu'on mène et pour l'instant, tant qu'on a la santé, ben on va continuer, hein.
Oui, il faut rien lâcher, et ça c'est une certitude. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes se sont joints à toi pour le coup, Pierre, dans ce combat. On peut évoquer évidemment Nico Saliagas, hein, mais Patrick Fiori, Karine Ferry et plein d'autres. C'est aujourd'hui aussi certainement un support, une épaule pour pouvoir avoir ces artistes à tes côtés, pour pouvoir continuer le combat aussi, c'est important.
Bah oui, c'est très important, c'est les moteurs même, voilà, c'est des parrains qui sont fidèles déjà. Et on peut nommer aussi Soprano, Sophia Essaïdi, enfin bref, on a beaucoup de gens qui nous suivent, et même les anciens élèves de la Starac 4, qui sont toujours avec nous. Alors ça c'est assez impressionnant aussi, parce que chacun a ses activités évidemment, mais ils n'ont pas oublié, et chaque fois qu'on les appelle, bah, ils sont là. Quand ils peuvent nous aider, bah, ils le font avec beaucoup de cœur, et pour nous c'est une mine d'or qu'on a autour de nous, effectivement.
Alors évidemment, voilà, on les salue pour ceux qui nous écouteront. On pense à Mathieu Johan, à Lucie Bernardoni, qui ont partagé cette aventure Star Academy avec Grégory. Et on peut pas se quitter sans évidemment évoquer une petite anecdote que tu m'avais racontée. Je m'en rappelle en studio, que tu me disais qu'il y avait une chanson qu'il avait fredonnée sous sa douche, Grégory, il me semble.
Ouais, dans sa salle de bain, ouais.
Dans sa salle de bain.
Ouais.
Et cette chanson s'appelait
C'était de temps en temps. Il avait même fait ça sur Je rêve. C'était sa manière à lui un peu de s'isoler bien souvent dans la salle de bain. Et il écrivait des chansons, voilà, à l'inspiration. Et c'est moi qui avais enregistré la mélodie qui sortait de sa bouche. Et Grégory avait une oreille incroyable et c'est devenu une chanson. Et c'est deux chansons notamment, de temps en temps et Je rêve. C'est un peu comme ça qu'il les a écrites. Ouais.
Alors laquelle tu veux qu'on passe maintenant?
De temps en temps.
Eh bien allez, on se la fait pour le plaisir, voilà. On se quitte évidemment.
Un petit clin d'œil aussi à David Esposito et puis bien sûr Grégory qui a écrit cette chanson et qui est devenu un tube quelque part puisqu'on l'entend assez souvent. Oui.
Exactement, et le rendez-vous est pris le 30 juin pour venir à ta rencontre, ça sera Saint-Brice-sur-Vienne pour un concert exceptionnel de Pierre Lemarchal. Un rendez-vous à ne pas manquer évidemment pour continuer à soutenir l'association Grégory Lemarchal qu'on peut retrouver aussi sur internet. On peut rappeler le nom du site, Pierre?
www.association-grégory-lemarchal.org.
Voilà, vous pouvez également faire des dons pour faire avancer la recherche. Merci infiniment, Pierre.
Merci à vous tous. Merci, avec plaisir de se voir le 30 juin.
À très vite. De temps en temps, c'est Grégory Lemarchal dans Chute, on écoute la télé, c'est notre hommage.
Sous le poids de l'espérance, je vais parfois à contre-sens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur, de la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs. Et très souvent je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve.
rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main, du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps je plie sous le poids du sort et des souffrances collées au corps. De temps en temps je prends des coups dans le dos, des conneries, des jeux de mots. De temps en temps je regrette l'innocence qu'on peut avoir dans notre enfance. De temps en temps je veux la paix, pour moi je n'ai plus de respect. Et très souvent je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, du crépuscule jusqu'au matin. De temps en temps je pense à tort, que pas de larmes c'est être fort. Au fond ce que j'attends, c'est voir le bout de nos efforts, que l'amour soit là encore. Je me relève sous ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Je me bouscule, te prends la main, au crépuscule je te rejoins. Je me relève sous ton regard, je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main, du crépuscule jusqu'au matin.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi prochain pour un nouveau numéro inédit de Chute on écoute la télé, consacré pour une bonne partie au film Les crevettes pailletées. Le film sort au cinéma le 8 mai prochain. À cette occasion, nous recevrons les deux réalisateurs, Maxime Govard et Cédric Le Gallo, mais aussi tous les comédiens qui seront avec nous. Romain Bro sera avec nous, Romain Lancry, Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Abitboul. Tous seront avec nous pour nous parler de ce super film qui sort dans les salles le 8 mai prochain. Donc spécial crevettes pailletées lundi prochain dans Chute on écoute la télé. Ça sera également une spéciale du film L'Enfant que je n'attendais pas. Nous recevrons à cette occasion Bruno Solo, Alix Poisson et Bruno Garcia qui seront nos invités exceptionnels pour nous parler de ce téléfilm diffusé le 8 mai sur France 2. Et puis spécial Candice Renoir aussi avec Hélène Japin et Pascal Lamani, réalisateurs de la série, qui seront donc nos invités. Plein de beaux rendez-vous et de belles surprises qui vous attendent lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Chute on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute on écoute la télé, la quotidienne sur Attitude à 9h07, 11h07 et 13h07. Et en attendant, je vous donne évidemment rendez-vous pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé dès lundi prochain 13h et rediffusée évidemment le mardi à 19h. Alors je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente sur langélis.com.
Chute, on écoute la télé avec Maison Trio, vos crêpes fabriquées en Charente en vente en grande surface.